Nous sommes le jeudi 20 novembre, il est 21h et des poussières sur Radio Canut 102.2. Bienvenue dans le nerf de la game.
Bravo.
Écoute, la technique fait un peu ce qu'elle veut ce soir.
Meilleur lancement.
Ah, c'est mon lancement préféré. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine, ou presque, vous retrouverez ici un cocktail d'actu sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique, pardon. Bonsoir Romain.
Salut Xavier.
T'as l'air à l'aise, ça va?
Écoute, ça a glissé.
Comment vont tes... C'est haut mais ça glisse.
C'est un peu ça. Mais sinon ça va.
Bon bah.
Et toi?
Bah écoute, ça va. Romain qui, quand il ne réalise pas le nerf de la game.
Avec brio.
Oui, alors c'est marrant parce que désormais c'est toi qui vas le rajouter systématiquement.
Oui. Absolument.
Il anime sa propre émission sur Twitch qui s'appelle À vos souhaits sur sa chaîne Ruvon avec un underscore tous les mercredis après-midi. Et malgré une activité et une actualité qu'il a jugée hier petite, très tranquille, pas beaucoup de sorties, il nous a fait 5h30. Hein.
Alors, non. J'ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de nouvelles pages que j'avais ajoutées à ma liste de souhaits. Mais on a quand même fait 5 heures et pas 5 heures et demie.
Oui.
Mauvaise langue.
Oui, merci. Juste rappelle un peu le principe de l'émission, de ton émission.
Ouais, globalement, je parle des nouveaux jeux en fait, qui ont été annoncés ou en tout cas qui ont vu une page Steam arriver. Donc en fait, un jeu qui est. On a déjà une petite présentation, on a déjà un peu le nom, c'est qui l'a fait, etc. Et je choisis. Avec ma subjectivité personnelle, des jeux dans le tas pour vous les présenter, en fait, pour vous dire, bah voilà, celui-là, j'ai envie de le présenter parce que c'est tel studio qui l'a fait, parce qu'il me plaît, parce qu'il y a des choses qui m'intéressent dedans. Donc il y a vraiment un côté très découverte et transmission, finalement, des découvertes que j'ai fait sur Steam en une semaine, enfin, semaine par semaine.
Effectivement, une émission très efficace qui m'a fait perdre 15 euros pas plus tard que hier soir. Merci à toi.
Eh bien, écoute, tu es influençable. C'est pas de ma faute.
Mais c'est bien de soutenir les développeurs.
Oui.
C'est super.
Bonsoir, Bettina.
Bonsoir.
Comment vas-tu?
Eh bien, petite forme. Hein. J'ai une bonne crève, comme on dit dans le jargon professionnel.
Et heureusement, grâce à la magie de la radio et aux doigts de fée de Romain, ça ne va pas s'entendre.
Absolument pas.
Bettina, instigatrice de l'événement Indie Game Lyon, qui nous donnera des news des devs locaux. Et promis, j'ai pas lu tes notes pour me garder la surprise.
Parfait.
Ce soir, on a fouillé dans les chiffres qui dessinent une photographie du jeu vidéo français, avec un focus sur ceux fournis par deux piliers importants du secteur. D'un côté, le CEL et de l'autre, le CNC. Et on a un peu fouillé aussi du côté de la FJV pour avoir quelques infos supplémentaires. Mais d'abord, on va faire le tour des news récentes des gens qui fabriquent des jeux vidéo sur Lyon et ses alentours. Bettina, je te laisse la main.
Il manque un jingle, je reste persuadé. Si vous voulez, j'en ai, hein, je peux lancer des trucs. Vous avez vu comme je lance bien des morceaux? Je peux le refaire.
Tu pourras le lancer 3 fois.
Exactement.
Et tu fais bien de préciser Lyon et ses alentours, parce que là, ce soir, je ne vais pas forcément parler de Lyonnais. Donc, le premier jeu dont je veux vous parler, c'est Magical Greenhouse, qui est sorti le 4 novembre. C'est de MGTT Studio, un petit studio grenoblois de 2 personnes. Donc oui, la commu locale s'étend à la région. Donc ce studio, c'est Célia Margotto, alias Lia MGTT, qui s'est occupée de l'UI, UX, du game design et des graphismes, et Frédéric Blanc, alias Yorak, qui lui est développeur. Et les musiques sont signées Samantha Van Der Sluis, et j'espère que je n'écorche pas son nom. Donc, la première fois que j'ai entendu parler du projet, c'était lors de la restitution du Game Crea Lab en septembre 2024. Donc justement, on avait pu déjà parler du Game Crea Lab
Donc pas celui de cette année, celui de l'année dernière.
Quoi. Voilà, exactement. Okay. Et donc depuis, le duo a réussi à aller au bout de la production, donc bravo à elle et lui déjà. Donc je vais vous présenter un petit peu le jeu. Magical Greenhouse est un jeu de gestion cosy dans lequel il faut gérer sa propre boutique de potions. Les clients, des créatures et aventuriers en tout genre ont des demandes étranges et il faut alors faire preuve d'inventivité pour créer la potion qui répond à chaque situation. Il faut prendre soin des plantes dans la serre, il faut utiliser l'alambic de l'atelier pour fabriquer des potions, il faut organiser son magasin et développer son activité. C'est un peu le capitalisme, mais mignon et sympa.
Oui, Stardew Valley.
Oui.
Le capitalisme cosy.
Voilà.
Voilà.
Y a un système de gestion d'énergie qui pousse à agir avec sagesse. Et pour la création de potions, on a un carnet de recettes, mais on peut aussi essayer de découvrir les recettes par l'expérimentation, au risque de perdre les ingrédients. On peut customiser sa serre, mais c'est pas seulement esthétique, ça permet de renforcer les capacités, par exemple la croissance des plantes, la fabrication des potions, l'énergie, etc. Les graphismes sont chatoyants et très mignons. C'est bien ma came, ce genre de jeu. J'adore les cozy games et les jeux de gestion. Précision importante, il est en anglais, donc même si c'est pas compliqué, ça peut être un frein quand même, surtout pour les plus jeunes notamment. Il n'y a pas de français disponible, même si c'est développé par des Français. C'est un petit jeu qui dure 3 à 5 heures et il coûte 6,90€ sur Steam.
Et il a une démo.
Il a une démo ? Je l'avais pas vu.
Je suis sur la page Steam, je confirme qu'il a une démo actuellement.
Ok.
Dans ce que tu as dit, j'aime bien le côté un peu risque-récompense où en fait tu prends des ingrédients sur des recettes qui n'existent pas entre guillemets et puis tu prends le risque de faire quelque chose. C'est une mécanique qui m'avait vachement plu, notamment dans Zelda Breath of the Wild, où en fait tu pouvais prendre des trucs au hasard et des fois bon ça faisait rien du tout, mais des fois ça te faisait des plats vraiment très 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 intéressants. Donc j'aime bien ce genre de truc.
Alors ça vaut ce que ça vaut les évaluations Steam, mais on est quand même sur 34 évaluations positives pour 2 négatives. On est quand même sur
il est très chouette hein. C'est un tout petit jeu, faut le prendre pour ce qu'il est hein, mais il est très chouette.
Non, pour 6 balles c'est cool.
Oui. Et donc le deuxième jeu dont je voulais vous parler, c'est Maelstrom Legacy, le mystère de Tesla.
Et celui-là, j'en ai parlé la semaine dernière, tu vois.
Ah ouais ?
Bah oui.
Dans ton émission à toi.
Tout à fait. Parce que je parle aussi des jeux qui viennent de sortir et il est sorti dans la semaine, il y a 10 jours ?
Le 7 novembre. Donc c'est signé Wistfulware, qui auparavant s'appelait Caravage Games, mais ça n'a pas changé d'équipe, hein. C'est juste qu'eux ils ont changé de nom, je ne sais pas exactement pourquoi, mais peu importe. Co-fondé par Louis Gandry et Sébastien Marche, c'est un studio qui est domicilié en Isère, donc dans la région comme je disais, mais je crois qu'ils sont tous les deux à Angoulême. En tout cas Louis était dans la région auparavant, donc voilà, je triche un peu, c'était un dev de la région qui a déménagé visiblement. Donc Maelstrom Legacy, le mystère de
Tesla. On fait la diaspora, donc. Très bien.
Voilà, c'est un jeu moi, que j'ai connu dans la communauté lyonnaise, donc voilà.
Bien sûr. Pardon, je t'en prie, je te laisse.
Ouais, je vous présente le jeu. Donc, Maelstrom Legacy, le mystère Tesla, est un jeu d'aventure et d'énigmes. Dans un Paris imaginaire, on doit mener l'enquête sur la disparition de Nikola Tesla, explorer à la ville, interroger les habitants et découvrir les secrets de ce mystère. À la manière d'un professeur Layton, les énigmes font progresser l'histoire. Derrière chaque rencontre ou élément interactif peut se cacher une énigme à résoudre et chaque solution débloque de nouveaux indices ou fait avancer le récit. Et peu à peu, les énigmes révèlent l'intrigue globale. Et comme dans les professeurs Layton, si une énigme nous résiste, il y a un menu d'indices accessible à tout moment qui nous permet de débloquer la situation. Il y a aussi une petite vibe Ace Attorney dans des séquences où il faut démêler le vrai du faux dans les témoignages de personnages. Les graphismes, là aussi, sont super chouettes. Il y a un gros travail d'illustration qui est à saluer. On peut aussi supposer qu'ils ont l'ambition de faire plusieurs épisodes, puisque celui-ci s'appelle Maelstrom Legacy 2. Le mystère Tesla. Maelstrom étant le nom de famille du personnage principal, on peut penser qu'il y aura peut-être d'autres Maelstrom Legacy 2. Quelque chose. Mais bon, ça dépendra aussi du succès du premier titre, j'imagine. Il coûte 9€ sur Steam. Il y a aussi une démo gratuite si vous voulez le tester. Et c'est une chouette proposition pour patienter en attendant le prochain Professeur Layton annoncé pour 2026.
Oui, effectivement, c'est un jeu auquel j'ai pu jouer sur 2 démos différentes, au même endroit. Mais pas au même temps.
Ne serait-ce pas Indie Game Lyon, par
hasard. Je crois que... Alors, je sais pas qui fait la promo de cet événement, mais...
toutes les semaines.
C'est quand même bien foutu. Hein.
toutes les semaines au même endroit. Hein. C'est quand même incroyable.
C'est incroyable.
Il y a un élément commun à tout ça.
C'est marrant parce qu'en fait, la première fois que j'y ai joué, c'était vraiment l'intro du jeu où, en gros, on jouait le personnage de Maelstrom pas encore à Paris pour pas spoiler.
Encore dans sa montagne.
Voilà, c'est ça. Et enfin, sa montagne. Bref. Une fois de plus, jouez-y. Enfin, le scénario est plutôt cool en plus. Donc, voilà. J'ai bien aimé en fait que entre la première et la deuxième fois, il y a une grande variété sur les puzzles. C'est toujours en fait la problématique sur ce style de jeu. Si t'as des puzzles qui commencent à se rassembler, t'es en mode, vas-y.
Mais t'as fait que du recyclage, quoi.
Je suis fait que du recyclage. Ouais. Là, en fait, à chaque fois, sur la première, sur la deuxième démo, j'ai jamais eu deux fois le même puzzle. Et c'est des puzzles qui peuvent être des fois assez retors, donc c'est plutôt cool.
Ouais, ça fait très penser effectivement au professeur Layton.
Oui, c'est totalement.
On attend donc le Maelstrom Legacy 2. Mythe professeur Layton. Attend un truc.
Waouh.
Ah, ça serait trop bien. Mais par contre, par rapport à professeur Layton, c'est peut-être parce que le professeur Layton il y a eu beaucoup, mais je pense qu'il y a un peu moins de caractérisation des personnages dans le sens où. Les personnages sont très hauts en couleur, etc. Mais il y a moins le côté on va regarder le lore des personnages et leur histoire, etc. Ce qu'il y a plus dans Professeur Layton. Après, j'ai pas joué au premier Professeur Layton. Je pense que peut-être qu'il était plus
tranquille à ce niveau-là. La série, c'est possible aussi.
Oui, après, il était assez complet. Mais enfin, de toute façon, Maelstrom Legacy, le scope est pas du tout le même. Donc voilà, encore une fois, c'est un jeu à 9€. Donc voilà, faut pas.
Les graphismes sont très cool. Très manga à la française, on va dire, quand même.
Oui, en fait, il y a une inspiration Ghibli, mais à la française,
voilà. Pas Ghibli, il y a dégueulasse, merci bien. C'est des vrais dessinateurs qui l'ont fait, et ça se voit, et c'est cool. Ouais.
Et il est en français. Oui. Pas que, mais lui, il y a une version française aussi, ce qui est d'autant plus intéressant, parce qu'il y a, comme tu disais, des dialogues, et notamment des énigmes où tu dois un petit peu faire de la déduction. En fonction de ce qu'on te dit, donc c'est d'autant plus intéressant que ce soit dispo en français.
C'est vrai.
Merci Bettina.
De rien.
Si vous aimez vous creuser les méninges outre Maelstrom Legacy, il y a aussi un autre endroit où vous pourrez vous creuser les méninges et faire appel à votre mémoire. Ce sera le Troquet Taquin, le 25. En fait, toi, la promotion, la shameless promotion, t'es pas à l'aise avec ça.
Mais pas du tout. Je pensais pas que t'allais la caler maintenant.
Oui, je la cale maintenant.
Et continue.
Voilà. Donc, Troquet Taquin, on fait un blind test, on fait un quiz qui s'appelle Sex Nerd et Troquenroll, qui aura lieu donc le 25 à partir de 20h30, qui sera animé un peu par moi et beaucoup par Romain.
Alors j'allais dire l'inverse, mais du coup ça s'équilibre.
Voilà. Au menu, globalement, c'est exactement comme ça dit. Alors peut-être pas tant de sexe, mais beaucoup de nerdisme et beaucoup de rock'n'roll aussi.
Aussi. Et un petit peu de culture générale, actualité.
Voilà.
Pas oublier.
C'est ça. Et surtout, de la bonne humeur et globalement aussi de l'ordre. C'est très important, l'ordre. On n'aime pas l'anarchie dans notre quiz. Voilà, donc si vous aimez un peu le bordel aussi, ce sera bien. Ça, je pense que ça pourra vous plaire.
Et c'est donc mardi, autre cataquin qui est place.
Fernoret. C'est juste à côté de la place Satonnet. C'est ça, pas très loin des terreaux. Venez, on vous accueillera avec plaisir.
Et si on attaquait le sujet de la soirée?
Mais de quel sujet veux-tu parler, voyons?
Je sais pas, je te vois galérer avec ton téléphone.
Il est perdu dans ses notes.
Ah oui, attends, je regarde mes notes. Attends, les notes que tu as sorties tout à l'heure.
Mon post-it est prêt. Qu'est-ce qu'il y a?
Comme je disais, on va évoquer le rapport du sel sur les habitudes des joueurs français et l'étude du CNC sur les publics du jeu vidéo. Mais d'abord, avant de parler de ces études en particulier, c'est quoi le sel et c'est quoi le CNC? Le SEL, donc, c'est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, qui représente de manière générale les patrons de l'édition vidéoludique et qui publie chaque année des analyses clés sur le marché et les tendances et aussi les comportements des joueurs. On va voir un peu c'est aussi à peu près ce que va faire le rapport du CNC de façon plus complète. Mais si on connaît le SEL ici, c'est aussi parce qu'ils sont à la tête de l'organisation souvent bancale du Paris Games Week.
Oui, c'est une sorte d'événement qui s'est beaucoup inspiré, je trouve, de l'Indie Game Lyon.
En gros, c'est l'Indie Game Lyon en moins bien.
Et un petit peu mieux situé, peut-être. C'est peut-être pour ça qu'il y a un petit peu plus de monde, mais.
Voilà, non, mais.
Très
voilà.
Légèrement, globalement. Non, globalement. On est quand même pas sur les.
Et si Bitinari, c'est parce qu'elle est gênée, parce qu'à chaque fois, elle est gênée quand on apporte ce sujet.
Quand on évoque l'Indie Game Lyon, en général, ça l'emmerde.
Ouais, c'est vrai.
En Paris Games Week, quand même.
Pas de... Non, mais voilà, je veux pas ridiculiser les plus petits, quoi.
Non, mais voilà, on va pas tirer sur l'ambulance non plus. Mais voilà, en fait, le truc, c'est que le nombre des visiteurs annoncés reste à peu près le même, alors que le CEL a investi beaucoup pour changer l'organisation, pour que ça soit beaucoup plus flashy.
Cette année spécifiquement.
Cette année spécifiquement, pour que ce soit mieux. Et que malgré tout, on a toujours le même nombre de visiteurs et en tout cas des résultats qui sont pas spectaculaires, qui ont pas changé de façon spectaculaire. Nous, on aime la présence de l'armée de terre.
Bien sûr, évidemment. Le stand de recrutement de
l'armée. Je crois que j'irais
au milieu d'un salon du jeu vidéo, mais qu'est-ce que, enfin, c'est évident de le mettre là.
Bah, juste à côté des bandes Call of, c'est quand même, c'est quand même intéressant.
Mais tu sais, je me souviens, on en avait parlé très rapidement quand on parlait d'un gros sujet qui était la représentation de la guerre et des endroits dans le jeu vidéo. Mmh. Et il y avait en parallèle un petit peu, il y avait effectivement une vidéo très très intéressante de People Make Games sur la guerre l'implication finalement de l'armée, de façon générale, hein, les armées des pays, dans le financement de jeux vidéo, et en tout cas de jeux aussi, tout simplement, et effectivement le recrutement de personnes qui ont l'habitude en fait de manipuler certaines manettes, certains trucs comme ça pour les contrôles de drones,
ça c'est quelque chose qui se fait
complètement, et c'était complètement assumé de la part notamment de l'armée britannique qui est très très ouverte sur le sujet en étant très très, pas cynique mais très réaliste sur le truc, en disant c'est les gens qui ont l'habitude effectivement de manipuler ces objets là donc on va se tourner vers eux aussi, on va essayer de leur montrer qu'il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans, mais c'est voilà, tant que joueur, c'est toujours...
Non, mais c'est toujours intéressant de se dire que où est-ce que l'armée peut recruter. La réponse est Paris Games Week, là où il n'y a que des joueurs de jeux vidéo, c'est parfait, notamment par rapport au fait de tuer des gens.
Voilà.
Mais donc ça, c'est le CEL qui l'organise.
On veut des jeux de plus en plus réalistes. Non, pardon, c'est pas ça.
C'est le CEL qui organise ça. Et donc forcément, entre l'organisation et puis la gestion des files d'attente, la répartition des stands, etc., il y a toujours quelques trucs. Après, ne pas oublier que le Paris Games Week reste quand même le plus gros événement en France de jeux vidéo chaque année.
Ah, c'est massif, malgré tout. Enfin, faut brasser effectivement du monde, ça dure un week-end, donc du vendredi au dimanche, un truc dans le genre.
C'est ça.
Il y a des concerts, c'est un bordel.
Voilà, en gros, c'est organisé par les éditeurs de logiciels de loisirs. Donc, en gros, les grosses boîtes et plutôt, pour schématiser, plutôt orienté organisation patronale. Mmh. Voilà.
Oui, bah, ils étaient du côté du STJV.
Voilà.
Dans les.
Non.
Hmm
non.
Non, pas du côté
non.
Du
SNJV.
Justement.
Merci de me reprendre, effectivement.
Parce que le jour où ça arrive, les choses vont beaucoup changer.
Non, effectivement, ils étaient du côté du SNJV quand ils avaient été...
Du syndicat national des jeux vidéo. Donc
qui est le MEDEF du jeu vidéo.
Voilà.
Qui était convoqué, gentiment invité par l'Assemblée nationale pour expliquer pourquoi on leur filait autant d'argent public pour qu'ils licencient des gens. Mm-hmm. Réaction, effectivement, il y avait également le CNC dont on va aussi parler.
Eh ben, effectivement, on peut parler de l'autre invité à cet événement, qui est donc le CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée.
Ça s'entend pas dans le nom, mais c'est là.
C'est là. Pour le coup, c'est vraiment là, oui. Notamment. Honnêtement, que ça soit un marché et un secteur de l'animation en France, c'est parce que le CNC le finance en grande partie. En fait, le CNC, son boulot, c'est de soutenir la création par ses aides financières et ses dispositifs d'accompagnement en encourageant l'innovation et la diversité dans la production vidéoludique française, principalement vidéo, certes, mais vidéo et audio, vu que le CNC aussi finance des artistes audio et des films aussi, mais aussi la production vidéoludique. Le CNC, dont le budget provient de taxes prélevées sur les billets de cinéma, sur la diffusion télévisée, sur les offres vidéo à la demande et les offres de vidéos en streaming.
Il manque un truc, non ?
Et pas de la vente de jeux vidéo.
Il manquait un truc, il me semblait bien.
Non, non. Par contre, le CNC ne reçoit pas d'argent de la vente de jeux vidéo, alors que le CNC finance de nombreux projets sans jamais que le secteur du jeu vidéo ne soit mis à contribution, ce qui leur pose aussi un problème et ce qui risque de poser un problème à moyen terme en termes de financement.
Comme le disait Anne Desvoisseaux à l'époque, il ne faut pas contraindre les entreprises du jeu vidéo.
C'est ça.
Donc leur rajouter finalement quelque chose de l'argent qui doit sortir de chez eux pour finalement être redistribué à tout le monde, dont eux.
Le troisième larron dont j'ai parlé brièvement, c'est la FJV, c'est l'Agence française pour le jeu vidéo, qui fait office de plateforme de ressources pour toute la filière et surtout qui met à dispo des infos et beaucoup d'offres d'emploi et d'études sur l'industrie. J'en parle un petit peu moins parce que la FJV sur ce dont on va parler a plutôt, en tout cas moi ce que j'avais lu, c'est qu'ils ont pris les infos du CNC et en ont fait une sorte de résumé.
Oui, c'est ça.
Pour que des gens comme moi puissent comprendre.
Pour pas se farcir les 150 pages des dossiers.
Hein, Romain ?
Ils font que 90 pages.
Donc voilà, mais en gros...
Il y a des images et tout.
Il y a des schémas.
Oui, mais il n'y en a pas assez. Et donc ces deux les deux institutions, donc celle et principalement CNC, en fait, ont fourni des chiffres qui dessinent, en tout cas qui visent à dessiner le paysage du jeu vidéo en France. Avant de parler plus en détail de ce qu'il y a dans ces rapports-là et qui peut nous intéresser, est-ce que vous pouvez nous parler d'abord de comment quelle méthode a été employée pour récupérer ces chiffres qui font ces rapports-là, notamment ceux du CEL et ceux du CNC.
Moi, j'ai pas noté grand-chose de mon côté. Juste dans le rapport du CEL, c'est indiqué au début qu'ils ont. Enfin, c'est pas le CEL qui a fait lui-même ce rapport. C'est une étude réalisée par Médiamétrie pour le CEL. Et donc, il y a 4001 personnes qui ont été interrogées. 4001, voilà. Ça me trigger. C'est pas un chiffre rond, mais bon.
donc, c'est rarement c'est des chiffres ronds
dans les trucs de sondage.
Mais là, à un près, quoi. Merde. Et donc, c'est des personnes âgées de 10 à 80 ans qui ont été interrogées durant la période du 19 juin au 13 juillet 2025.
Sur Internet.
Et sur Internet, voilà. Je sais pas si toi, tu as d'autres précisions à apporter.
Pas sur le rapport du CEL.
Donc, on est sur une méthode classique d'institut de sondage où on va avoir un panel, on va leur poser des questions et on va retirer des chiffres par rapport à ces réponses-là, sachant que tout le principal boulot en amont, c'est de comment en fait tu poses les questions et comment tu constitues ton panel.
Et que c'est du coup du déclaratif.
Oui.
C'est intéressant aussi comme...
Et c'est pareil pour le CNC ?
Plus ou moins. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait deux rapports. Le CNC, il y a deux rapports en parallèle. Un rapport qu'ils appellent qualitatif, qui est donc, lui, orienté sur un nombre très limité de...
Je te coupe, je précise, pareil, c'est pas le CNC qui a fait ça, c'est un institut qui s'appelle Toluna. Voilà,
c'est
précision,
ça.
C'est tout.
Tout à fait. Et donc, leur méthodologie pour le rapport qu'ils ont appelé qualitatif, qui va un peu plus dans le détail, ils ont fait des entretiens à domicile. Donc auprès de 8 personnes, pendant 1h30, auprès de personnes entre 15 et 50 ans. Et ils ont fait également le même genre, finalement, que ce qu'a fait Médiamétrie pour le CEL, une interrogation en ligne via une plateforme de blog, mais sur 6 jours, et auprès de 42 participants, entre 18 et 50 ans également.
Donc voilà. 42, ça paraît peu.
Ouais, ça paraît peu, mais c'est parce que justement ils sont allés assez loin dans le témoignage. C'est pour ça que je disais en fait le côté déclaratif dans un sens. Dans celui-ci, on est beaucoup plus finalement sur l'observation des comportements des gens, même s'ils sont commentés, même s'ils sont. On a beaucoup de citations finalement des gens, qu'est-ce qui les intéressait dans tel truc, etc. On va un peu plus, voilà, sur des individus, sur des arguments individuels là-dedans. Alors qu'ils ont fait une autre partie, donc ça c'est l'approche qualitative qui doit faire pareil une cinquantaine de pages, un truc comme ça, 38 pages.
Tu veux dire qu'il y a quelqu'un qui est chez toi et qui joue à Ball, et qui, pendant que tu joues à Ball Pit, il est à côté de toi en train de...
de mesurer ton taux de... mesurer ton taux d'adrénaline pour
ça
savoir...
Ça rend complètement con.
Voilà. Exactement. Okay. Qui te pose des questions, tu sais, des trucs de base, quoi. 2 plus 2, tu sais plus répondre.
Et voilà, des boules.
Voilà, à peu près. Non, voilà, donc l'idée, elle est très très différente, effectivement, d'un sondage déclaratif. Mais c'est aussi ce qu'ils ont utilisé comme méthode pour l'approche que je trouve la plus, finalement, la plus intéressante sur le global. Où là, ils ont interrogé donc un échantillon représentatif, donc encore une fois, suivant les mêmes méthodes, hein, des instituts de sondage. Là, on parle de 3286 personnes de plus de 15 ans, plus 752 foyers pour s'intéresser aux enfants. S'intéresser aux 752 foyers qui vivent au moins avec un enfant de entre 4 et 14 ans, pour donc, avec une double interrogation parent-enfant. Donc on a la déclaration de l'enfant, la déclaration du parent. De temps en temps, il y a des légers décalages, notamment sur ceux qui disent qu'ils aimeraient jouer plus, et les parents trouvent que, en fait, non, ça va, c'est bien.
Voilà. C'est un classique.
Ouais, voilà, ce genre de petit dialogue. Mais du coup, voilà, on va dire que le panel est un peu plus large, et il y a une concentration, effectivement, il y a une bonne partie des 99 pages qui est consacrée, effectivement, au comportement des enfants. Spécifiquement. Donc ça n'a pas forcément, enfin, voilà, c'est pas forcément le truc le plus intéressant, je trouve, mais c'est, malgré tout, c'est quand même une partie parce que quand je dis que c'est pas forcément la partie la plus intéressante, c'est que, encore une fois, que ce soit le CEL ou le CNC, les deux rapports finalement situent un âge moyen des joueurs assez éloigné de ces catégories d'âge. Mmh.
Avant justement de parler des catégories d'âge, un truc qui m'avait intéressé notamment à la partie CNC, c'était la comparaison entre la pratique du jeu vidéo et la pratique d'autres loisirs audiovisuels. C'est-à-dire, comme un truc qu'on avait dit notamment par rapport à Fortnite, où Epic avait dit en fait que son ennemi, c'était pas les autres jeux vidéo, mais c'était genre Netflix. À cause du temps de jeu, en fait, tout simplement, et que c'est aussi avec cet argument-là que Netflix était, en tout cas à l'époque, allé sur le marché du jeu vidéo pour commencer justement à dire, ben, quand ils regardent pas la saison de mercredi ou de Stranger Things, et ben du coup ils jouent aussi sur un truc Netflix. Pour que ce soit tout le temps chez, pour faire de la rétention, entre guillemets. Mmh. Là, en fait, je sais que vous avez regardé les chiffres. Mmh. Est-ce que le jeu vidéo, en termes de concurrence par rapport à d'autres loisirs audiovisuels, est-ce que c'est le truc le plus fait, le truc le plus pratiqué, en fait, par rapport à d'autres loisirs?
Pas exactement. Il y a effectivement une bonne partie du truc qui parle donc de quelle place du jeu vidéo face aux autres formes de divertissement. C'est comme ça qu'ils l'ont nommé. Donc, ils parlent effectivement ils comparent à la télévision, à la consultation de réseaux sociaux, à l'écoute de la radio. C'est un peu plus discutable. Regarder des vidéos via une plateforme de vidéos gratuite. Bonjour YouTube.
Ouais.
Regarder des vidéos via une plateforme de vidéos payante par abonnement. Salut Netflix. Notamment, Apple Plus, tout ce que tu veux, quoi. Qu'est-ce qu'on a également? Du streaming audio, donc le contenu musical, podcast. Bon. Lu des livres, BD ou manga. Et est allé au cinéma. Donc ce sont toutes les possibilités du jeu vidéo.
T'avais cité la télé, j'avais pas.
Oui, c'est la première proposition. Et alors, sachant donc qu'on était sur un panel de personnes interrogées qui va jusque, effectivement, au-delà de 65 ans. Donc voilà, c'est, je pense que ça joue aussi pas mal dans le fait qu'il y a 95% des gens qui ont répondu qui regardaient la télé, dont 75% qui répondaient qu'ils le regardaient tous les jours ou presque.
Ça me paraît presque étonnant, parce surtout aujourd'hui, énorme. Notamment chez les...
Dans la moyenne de la population, finalement. Enfin,
ouais, chez les 15-25 ans, j'ai l'impression que la télé...
Ah non, mais moi, du coup, j'ai arrêté de regarder la télé il y a peut-être 2-3 ans, et mes parents sont en train d'arrêter de regarder la télé. Mm-hmm. Et mes parents, ils ont la soixantaine, donc...
Moi, mes parents, non, ils sont scotchés dessus, c'est pas l'histoire.
Bah, ils regardent encore un peu des trucs, mais plus ça va, et plus ils sont sur YouTube à regarder
volontairement, choisir exactement ce qu'ils veulent, ou de cette façon, ou en VOD, moi je vois sur les plateformes comme la plateforme de France TV, par exemple, qui a tous ces contenus en rediff. d'être moins soumis finalement à un calendrier que tu maîtrises pas, ou au contraire choisir quand tu veux regarder tel programme.
Ouais, moi je trouvais que c'était plus justement la génération qui est très génération qui a grandi avec Discord, avec Twitch, etc.
Avec YouTube.
Avec YouTube aussi, mais enfin encore plus celle plus jeune justement qui me dit fou, je me disais la télé ça les intéresse plus quoi.
Ah bah non.
Mais du coup
95 ça me paraît
ouais, c'est énorme hein.
Et donc dans leur revenu, donc le jeu vidéo reste un loisir majeur au même niveau que effectivement les vidéos comme YouTube, vidéos sans abonnement, et donc on est à 71% des gens interrogés qui jouent tous les jours ou presque, environ une fois par semaine ou au moins une fois par mois, enfin c'est à peu près comme ça qu'ils ont calculé. Donc, globalement, on est à 71% des répondants qui jouent aux jeux vidéo. C'est un peu comme ça qu'ils l'ont calé. Et donc, c'est un des loisirs, effectivement, les moins hauts dans la liste. Ils sont en dessous, enfin, juste au-dessus, quand même, que des gens qui écoutent du streaming audio. Encore une fois, si on parle juste de musique, si on parle de Deezer, Spotify, enfin, tout ce que ça implique, ça me semble aussi peu, en fait, en vrai. Mais voilà, c'est au même niveau que lire des livres, BD ou manga.
Okay.
Qu'ils ont tout mis dans le même bloc.
D'accord.
Voilà. Et effectivement, aller au cinéma, c'est 77%, mais sauf que c'est beaucoup, beaucoup moins régulier, ouais. Puisqu'il n'y a que même pas 1% des gens qui, effectivement, y vont tous les jours. L'immense majorité des gens qui vont au cinéma, ils vont une à trois fois par mois.
Oui, sachant que quand on parle de jeux, évidemment, on ne parle pas que ce dont on parle ici beaucoup, c'est-à-dire les jeux PC, les jeux consoles, etc. On parle aussi de la pratique sur mobile, oui. la pratique, ce qu'on appelle casual, qui est, à mon avis, largement majoritaire, mais ça c'est des choses que...
C'est une grosse partie effectivement de leur truc, la division finalement des comportements, en fait, des habitudes de jeu par rapport à ça. Alors un truc qui n'était pas inintéressant aussi, c'est dans la continuité, ils avaient comparé les joueurs et les non-joueurs, ceux qui étaient, ceux qui disent jouer par rapport à ceux qui disent ne pas jouer. Okay. Et là tu peux effectivement constater que de façon générale, les gens qui ne jouent pas ont également moins un accès à d'autres types de divertissement. Consomment moins d'autres types de divertissement. C'est les gens qui ne jouent pas consultent moins les réseaux sociaux. La télévision, c'est à peu près équivalent. Que tu joues ou pas, tu regardes la télévision à peu près au même niveau. Donc globalement, les gens qui ne jouent pas, ils regardent la télé. Par contre, les contenus vidéo sur plateforme, etc. La radio et la télévision, c'est à peu près les deux seuls accès à des divertissements qui sont équivalents, que tu joues ou pas. Alors que sinon, tous les autres, écouter du streaming audio, lire des livres, des mangas, aller au cinéma, etc., c'est des proportions beaucoup moins importantes chez les non-joueurs. Donc globalement, des gens qui ne jouent pas, c'est déjà des gens qui ont un accès, enfin un nombre assez restreint et réduit, entre guillemets, de types de divertissements différents, et qui sont souvent concentrés sur télévision et radio.
Ok, donc ça c'est... Ok, bon, ça, je trouve ça pas mal intéressant. Sur le fait que même si le chiffre est plus bas, on a le fait que par rapport à notamment, en tout cas quand que ce soit les années 90 ou début années 2000, le jeu vidéo est rentré dans les mœurs. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire que 71% des gens qui déclarent avoir joué un jeu vidéo dans le mois, à minima, c'est bon. C'est rentré dans les mœurs.
Et c'est une constante entre le rapport du sel et le rapport de... du CNC.
Ouais, les deux rapports s'accordent là-dessus. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui jouent. Qu'est-ce que le rapport pour le sel disait, plus de 7 Français sur 10 déclarent avoir joué. C'était quoi le... Alors attendez, je reprends mes notes. En 2025, 40 millions de Français déclarent avoir joué au moins une fois dans l'année, et donc soit plus de 7 Français sur 10. Et pour le CNC, c'était 3 Français sur 4, dont 44% qui disent tous les jours ou presque. Avoir joué tous les jours ou presque.
Ouais, ben ça c'est... Enfin...
Donc c'est clairement une pratique qui est vraiment devenue ancrée dans le quotidien des Français et des Françaises.
Voilà. Et ça se voit beaucoup sur les âges, en fait, un petit peu. Enfin, les 11-24 ans sont 90%, 97% des 11-24 ans ont déclaré jouer très régulièrement. Alors que chez les 60 ans et plus, on est à 46%. Ouais. Ce qui est déjà pas mal.
D'où l'intérêt de s'intéresser à comment les jeux sont produits, à ce qu'ils véhiculent, à qui les fait et l'impact qu'ils peuvent avoir justement sur les gens qui y jouent.
Ouais. Bah, du coup, le rapport du CNC, lui, met ça en avant, justement, le fait que c'est maintenant une pratique qui se démocratise et qui touche toutes les tranches d'âge et tous les milieux sociaux. Évidemment, les adolescents, les jeunes adultes restent les tranches les plus actives, mais les adultes et les seniors s'y adonnent de plus en plus, justement par les réseaux sociaux, les jeux sur les réseaux sociaux et les smartphones.
Bien sûr.
Ce qui montre que c'est vraiment un loisir qui est maintenant transversal. Mais effectivement, c'est des strates, des catégories de personnes qui n'ont pas du tout les mêmes pratiques.
Mmh. Évidemment. Mmh.
Mais ce qui est pas inintéressant, c'est aussi justement dans le rapport du CNC, tu as l'évolution. Tu as des gens qui ont déclaré jouer autant qu'avant, des gens qui ont déclaré jouer plus qu'avant, et puis des gens qui ont déclaré jouer moins qu'avant. Et ceux qui ont déclaré jouer moins qu'avant sont plus nombreux.
Okay.
Il y a 9% des Français qui joueraient plus qu'avant, mm-hmm. Et 23% des gens qui joueraient moins, voire même jusqu'à 11% qui auraient arrêté de jouer depuis 2 ans.
Mm. Ouais.
Avec plein de raisons en fait qui sont évoquées.
C'est ça. Et du coup, je voulais en venir à ce point-là. C'est hyper intéressant et c'est là où on remarque que l'angle entre le rapport du CEL et le rapport du CNC est bien différent. C'est du coup, pour rebondir là-dessus, donc comme vient de le dire Romain, il y a en gros un tiers des joueurs et des joueuses qui déclarent jouer moins qu'il y a 2 ans. Et donc, il y a plein de raisons qui sont évoquées pour ça, mais on va dire qu'il y en a 3 qui retiennent l'attention. Pour 40%, c'est le manque d'originalité. Donc, ils trouvent que les jeux d'aujourd'hui manquent d'originalité, de diversité. Et du coup, dans l'étude, ils précisent que certains décident de se réorienter vers des jeux indés pour pallier à ça. Pour d'autres, donc pour 64%, c'est à cause de la toxicité, notamment dans les jeux multijoueurs ou les jeux en ligne et dans certaines communautés. Et pour d'autres, c'est aussi l'exclusion des femmes. Donc il y a 56% qui trouvent que l'industrie manque de représentation féminine positive. Et là, l'étude qualitative contient des témoignages qui reflètent justement une certaine agressivité envers les femmes. Donc
Il y a un lien entre les deux dernières catégories dont tu as parlé, la toxicité et...
Complètement.
Ouais.
Et du coup, là où je voulais en venir, c'est que le CEL, lui, il donnait un discours vraiment optimiste, tandis que le CNC, lui, il se veut beaucoup plus nuancé. Et le CNC met en avant justement le besoin urgent de rendre les jeux vidéo et ses écosystèmes plus accueillants, inclusifs et bienveillants. Et du coup, c'est très intéressant de voir que l'angle était bien différent entre les deux rapports.
Le CEL veut vendre des jeux.
Ouais.
je pense que la différence vient également des questions, comment elles ont été posées, etc. Et surtout, effectivement, la différence de l'importance des témoignages que tu peux ressortir de d'être allé en immersion chez les gens et donc observer leurs pratiques réellement quotidiennes, quoi. Donc même s'il y aurait une légère dynamique donc de recul à court terme, on est quand même sur effectivement un loisir qui est quand même extrêmement développé et surtout extrêmement présent chez les jeunes.
Oui.
Donc quand ils vont grandir, ils vont pas forcément s'arrêter. Les gens qui vont suivre derrière eux, ils vont peut-être continuer, etc. C'est peut-être un mouvement finalement qui va, même si il a des hauts et des bas. Il y a déjà eu, même ils avaient repris les chiffres des années précédentes, etc. Enfin, il y a eu des moments où les gens jouaient plus, jouaient moins, etc. Enfin, c'est un petit peu fluctuant toujours. Pas forcément toujours pour les mêmes raisons d'ailleurs, mais voilà, il y a quand même un mouvement récent, en tout cas à court terme, effectivement, qui va plutôt dans le sens d'une diminution.
Ouais, en tout cas, c'est intéressant de voir que c'est globalement la toxicité et le manque de diversité. Hein, que ça soit
des vrais arguments,
que
ça
soit
des vraies raisons,
que ça soit diversité de genre ou autre, qui vont causer en fait la diminution voire l'arrêt de la pratique. Ça veut dire que effectivement, comme Bettina disait, il y a une certaine urgence en fait à remédier à cela et à créer en fait des espaces qui seraient tout simplement plus inclusifs et qui se débarrasseraient de ce fléau.
On dit moins peuplé de connards, c'est comme ça qu'on dit.
Ouais, nos amis les mascus.
Globalement.
Nos amis mascus, vous seriez bien gentils d'aller vous faire foutre et d'arrêter de parler aux gens. De manière générale.
Mais globalement, il y a aussi certains éléments qui sont mis en avant, comme le manque de temps.
Les mascus, les racistes, les homophobes. Oula, non.
le manque de temps, et la perte d'intérêt, effectivement, aussi. Tu as des gens qui disaient, c'est plus de mon âge, j'ai autre chose. Je préfère utiliser mon temps pour d'autres choses, d'autres loisirs, comme on le disait avant.
L'argument de l'originalité est aussi intéressant.
Ce qui est intéressant, ce que je voulais dire, c'est que justement, le CNC met en avant ces trois arguments-là. Oui. Volontairement.
Parce que c'est des éléments sur lesquels tu peux réellement agir, en fait.
Ouais.
Alors que les autres, c'est la vie. T'as moins de temps parce que tu vieillis, parce que t'as du boulot, parce que t'as des enfants. Parce que,
voilà. L'évoquer rapidement aussi. Hein.
C'est vrai.
Ils ont décidé d'en parler plus.
Je pense qu'il y a vraiment cette logique-là, en fait, c'est vraiment des éléments sur lesquels tu peux. Oui. Voilà. Il y a des actions possibles, en fait. Alors que le reste, c'est plus. Ça peut être beaucoup plus personnel ou des questions de temps, de vie, quoi.
Non, mais on a beaucoup évoqué justement la partie toxicité et la partie diversité. Il y a le premier argument, donc qui est la partie aussi originalité, qui est quelque chose qui est repris souvent par le Gamergate. Mais je trouve intéressant que ce soit le CNC qui en parle, notamment parce que ça va faire aussi partie de ces critères de choix pour les subventions qu'ils vont donner. Et que en gros, si t'arrives en disant bonjour, je veux faire un jeu qui ressemble à peu près tous les gros succès de ces 15 dernières années, le CNC va pouvoir se baser sur quelque chose en disant désolé, mais c'est pas vers ça qu'on va aller, on va peut-être essayer de faire autre chose.
Du coup, ça m'amène à un autre aspect que le CNC a mis en avant dans son étude, c'est qu'il y a ce truc de la French Touch. Justement, le CNC souligne que les jeux français bénéficient d'une image positive, en particulier par leur sensibilité artistique, leur narration, etc. Et du coup, ils mettent l'accent sur le fait que c'est une perception qui est importante et qui est un atout pour le rayonnement international des studios et éditeurs français. Et du coup, c'est pas du tout surprenant que le CNC mette en avant cette vision du marché français comme un positionnement unique à défendre et à promouvoir, parce que c'est aussi ce pourquoi il opère.
Le CEL va pas dans cette direction.
Le CEL évoque pas du tout ça.
Tiens, c'est étonnant parce que pour le coup, ça pourrait être aussi.
Le CEL parle des joueurs, du nombre de l'âge, etc. C'est plutôt.
Il parle pas du jeu globalement. Et du ressenti des gens par rapport au jeu.
En tout cas, les questions étaient là-dessus, étaient sur qu'est-ce que vous pensez du jeu français, des
studios dans le cas du CNC.
Ouais, dans le CNC.
Alors que dans le niveau du CEL, je te dis, c'est vraiment. C'est vraiment une photographie des joueurs, en fait.
Ouais.
Des joueurs et de leurs âges et de leur nombre d'heures de jeu, etc. Pas forcément. Il y a un petit peu le contenu, mais globalement, ils finissent par une grosse partie sur le PEGI, etc. Sur le fait que on accompagne les parents pour que les enfants jouent de façon responsable. Voilà, c'est leur boulot, c'est leur rôle.
Oui, non, mais je sais bien.
Voilà, alors que le rapport du CNC effectivement va beaucoup plus s'interroger sur les profils de joueurs qu'ils ont divisés en 5 catégories, les hardcore gamers, les casuals, etc. Et les joueurs mobiles qu'ils ont mis à part.
Oui.
Alors que les joueurs mobiles par exemple jouent plus souvent et plus longtemps que des joueurs casus, mais ils jouent pas du tout au même jeu. C'est pour ça que c'est pas inintéressant comme approche aussi, comme division des personnes.
Oui, mais c'est vrai que le rapport du CEL aurait pu mettre l'accent sur oh là là, regardez, on fait des très bons jeux en France, c'est vrai.
Parce que c'est pas les derniers justement à dire bonjour la France, regardez, on fait des super jeux, arrêtez de nous demander de payer des trucs, regardez, sinon on va mourir.
Le CNC a vraiment cette approche de justement en parlant de il faut plus d'originalité dans les jeux. Ils ont évoqué ils évoquent le jeu indé pour y trouver plus de d'originalité, justement. Là où le CEL va plutôt essayer de promouvoir les grosses boîtes et les triple A, tu vois, alors
complètement.
Que le CNC vraiment quand on regarde le rapport du CNC, tu sens que ils essayent de valoriser plus les productions indé, ça se sent en filigrane, quoi. Il y a d'autres aspects aussi sur lesquels ils se différencient pas mal, les deux rapports. C'est que le CEL mettait vraiment l'accent sur le sentiment d'appartenance à la communauté des gamers. Alors que le CNC, lui, il nuance vachement ce sentiment-là. Si je reprends mes notes, c'était où ?
Je note que tu l'as prononcé comme il le faut. Hein. Gamers ! Exactement. C'est pas les gamers, non. Gamers.
Le CNC, donc lui, il met en avant que justement le sentiment d'appartenance à cette communauté reste modéré, en partie à cause des stéréotypes persistants, et il y a beaucoup de personnes qui jouent mais qui ne se considèrent pas comme des gamers, notamment du côté des femmes et des joueuses occasionnelles, parce que le mot reste associé à un univers perçu comme fermier, compétitif et stéréotypé, là où le rapport du sel, justement, met vachement l'accent sur, hé, hey, regardez, il y a beaucoup de sentiments d'appartenance. C'est une commu qui tisse beaucoup de liens sociaux, etc.
Parce l'engagement.
Que, voilà, eux, ils mettent l'accent sur, je pense, bah, tous les jeux multi et ce genre de choses. Donc, ils mettent beaucoup de. Enfin, ils ont passé beaucoup de temps à détailler, justement, les liens sociaux, les sentiments d'appartenance, etc.
Donc, en mettant. Pardon, je t'en prie.
Si tu veux, ils ont fait en fait à la toute fin du rapport, donc, les cinq catégories qu'ils ont définies, les hardcore gamers. Qu'est-ce qu'on a ? On a les mid-core gamers, des gens qui jouent beaucoup, mais moins que les fous furieux, les casuals, les joueurs vraiment très très occasionnels, et les mobile only. Et donc dans ces quatre, dans ces cinq catégories, ben, je pense, moi personnellement, très clairement dans les hardcore, en termes de nombre temps moyen de jeu, c'est 25 heures à peu près pour les hardcore.
Par semaine ?
Par semaine, hebdomadaire. Ouais.
Je pense que je suis en mid.
Ouais, bah je
avec
mid.
Beaucoup de jeux de tir, beaucoup de jeux de rôle, hein, les MMO, ce genre d'attitude, enfin ce genre de.
Après, si je suis en vacances, je suis en phase de hardcore.
Voilà, mais... je pense aussi, mais d'habitude, avec le taf et tout ça, je pense que je suis en mid parce que 27, ah ouais. Ça me paraît beaucoup quand même.
25. Mais du coup, enfin, c'est 9% des joueurs, en tout cas, dans la catégorie, et sentiment d'identification en tant que gamer est à 5 sur 5. Si tu prends les mid-core gamers, c'est plutôt 14 heures par semaine.
Indépendant 5 sur 5.
Ouais, exactement. Si tu prends les mid-core gamers, c'est plutôt 14h40 par semaine. C'est 29% des répondants.
Ouais, 10-15 heures,
c'est,
ça me paraît.
C'est quand même une grosse moyenne avec 38 ans de moyenne d'âge et un sentiment d'identification à 3,7. Bien, oui, depuis quelques années maintenant. Mais... et c'est 80% des répondants qui jouent tous les jours ou presque là-dedans.
Oui,
alors que dans les autres, c'est 96%. Dans les hardcore gamers, c'est 96% des gens qui jouent tous les jours ou presque. Mmh. Si tu descends sur les casuals, là on est à 4 heures de jeu par semaine, 64% qui joueraient tous les jours, et un sentiment d'identification à 3 sur 5. Voilà, bon, c'est un calcul qui est fait par rapport à d'autres critères, mais là, oui. je vais un peu vite. En dessous, on a les lower gamers, donc vraiment les gens qui jouent allez, une à trois fois par semaine maximum, environ, tu vois, pour environ 3 heures de jeu par semaine, et un sentiment d'identification à 1,9. Et enfin, les mobile only, qui jouent, eux, plus, puisqu'ils jouent 4h30 par semaine.
Oui, ça me paraît logique.
Hein. Avec un âge moyen de 51 ans. Et un sentiment d'identification qui tombe à 1,7. 16% des répondants sont dans cette catégorie. Alors que les lower et machin, c'est 46 ans. En fait, plus tu montes en âge, plus tu tombes dans les catégories, puisque les hardcore gamers ont en moyenne 33 ans et sont à 80% des hommes. Alors oui, que dès que tu descends dans les catégories, tu vas beaucoup plus te rapprocher d'une égalité homme-femme. Ouais, et dépasser, et effectivement, quand tu vas dans les mobile only, tu tombes dans les 71-29 en faveur des femmes, en termes de pourcentage en répartition. Donc voilà, un petit peu ces cinq petites fiches derrière, en fait, où ils montrent un peu comment les gens jouent et comment est-ce qu'ils les ont classés, finalement, avec aussi, par exemple, des statistiques du nombre de gens qui jouent en multi, un pourcentage beaucoup, beaucoup plus élevé chez les joueurs hardcore. Même si, bon, je pense que tu peux aussi trouver des joueurs hardcore qui ne jouent qu'à des jeux solo. Mais
oui, mais du coup, ouais, donc le CNC met vachement l'accent là-dessus, sur cette segmentation. Après, voilà, c'est une segmentation qui est bien connue dans l'industrie du jeu vidéo. Hein, justement, quand on crée un jeu, on va cibler son public, en tout cas son cœur de cible, comme on dit dans le marketing. Donc, c'est une segmentation qui est bien connue, mais c'est vrai que ça reflète quand même la pluralité du marché des jeux vidéo qui, justement... fait qu'il y a une nécessité de reconnaître que ces pratiques sont bien distinctes. Alors évidemment, après, il y a toujours des cas particuliers de gens qui jouent beaucoup sur mobile et qui sont aussi des mid-core sur d'autres types de jeux, etc. Enfin, bien sûr. Mais voilà, il y a cette nécessité de reconnaître qu'il y a des pratiques bien distinctes dans le jeu vidéo, quoi.
Mais tu avais effectivement un truc qui disait qu'il y a 40% des gens qui jouent à la fois sur PC, à la fois sur console et aussi sur mobile, enfin, qui ont plusieurs supports différents pour jouer.
Ouais.
Et qui les possèdent les trois et qui jouent régulièrement sur les trois.
Oui, mais ça, c'est aussi dans le rapport du sel. Les deux s'accordent. Ouais.
Ça m'intéresse, le taux d'équipement. C'est-à-dire que j'imagine que... Je ne sais pas s'il y a le taux d'équipement en termes de mobile.
C'est évoqué,
à peu près
si.
Pour le mobile, j'imagine que c'est à peu près tout le monde.
Dans le sel, ça, c'était pas mal détaillé, enfin, dans le rapport pour le sel. Les joueurs et joueuses utilisent en moyenne 2,2 supports, donc console, smartphone, ordinateur, etc., pour jouer. Les consoles et les smartphones ont une proportion d'utilisation très proche, donc c'est 59% pour le smartphone et 58% pour la console.
Ah, 59, c'est pas tant que ça, en fait. J'aurais dit beaucoup plus, parce que comme je vois tout le monde sur son téléphone en train de jouer, en fait.
À quoi ils jouent, est-ce que,
Qu'est-ce que j'avais relevé d'autre? Un attachement à la console se confirme. 48% des Français l'utilisent plus de points par rapport à l'année précédente. J'ai pris des notes sur autre chose.
D'accord. Donc console, mais donc pas PC. Hein, on est d'accord.
Ouais.
Ok. Donc on est quand même sur en tout cas en France, sur un marché PC qui reste.
C'est pas la majorité en tout cas.
Reste plus, je veux pas dire spécialiste, mais on va dire qu'il est moins étendu que celui des consoles où va y avoir plus de personnes. C'est plus facile de diffuser un jeu à un plus grand nombre sur console que sur PC encore.
Alors d'après le CNC, c'est à peu près équilibré entre console et PC parce que c'est 53-50 en faveur des consoles et effectivement beaucoup plus haut pour les smartphones, tablettes. Ouais.
Okay.
Mais après c'est pas les mêmes au niveau des âges en fait, si tu vas vers les plus jeunes, c'est beaucoup plus répandu chez les plus jeunes, la console.
Oui, normal. Oui.
Voilà.
Facilité d'accès.
Voilà, c'est ça, c'est plus accessible une console.
Bien sûr, ouais.
Pour avoir un bon PC qui fait tourner des jeux, c'est plus d'investissement et en plus il faut refaire ta config régulièrement, enfin c'est compliqué.
Ça dépend, la Steam Machine va arriver.
Non, c'est une console. Attends.
Mais je vois le temps qui file et j'avais noté tellement de trucs que je voulais aborder.
Vas-y.
Je sais pas par quoi commencer. Justement, j'avais été surprise dans le rapport pour le sel. Il y a un passage sur le démat et le physique.
Oui.
Où justement, apparemment, les joueurs et joueuses ont une préférence encore marquée pour le format physique. 72% préfèrent le physique plutôt que le démat.
Tu retrouves ça chez le CNC aussi.
Ah ouais, moi j'ai regardé des résumés pour le CNC.
Ouais, non, mais c'est mentionné également. Ouais.
Et ils ont été interrogés donc, sur les raisons qui font qu'ils préfèrent le format physique. La première raison, c'est le plaisir d'avoir l'objet et faire la collection. Donc ça, c'est pour 48%. Mm-hmm. La deuxième, c'est pouvoir échanger ou prêter, donc à 44%. La troisième, c'est pour pouvoir offrir, 41%. Ensuite, c'est pour pouvoir revendre, 40%.
Oui, mais c'est pas négligeable pour le coup, je trouve.
Carrément.
Ensuite, c'est des raisons de stockage insuffisant pour le téléchargement, évoquées à 25%. Et en dernier, une connexion insuffisante pour télécharger les jeux, évoquées à 15%.
Ouais, sachant que l'immense majorité maintenant des jeux consoles, ils te demandent un téléchargement, même si t'as un support physique, quoi.
Mais t'avais un truc intéressant dans le CNC par rapport à ça, le choix en fait, du jeu. Effectivement, les critères en fait que tu vas, donc évidemment le genre, évidemment. Après la qualité, ça c'est des critères un petit peu subjectifs. Mais t'as un critère qui est pas du tout subjectif, c'est le prix du jeu, qui est quand même tout en haut hein, dans les choix, dans l'importance.
Avec des jeux des triple A maintenant qui sont à entre 80 et 90 balles, oui, effectivement, ça peut être intéressant de savoir.
Oui, non mais c'est un petit peu ce qu'on avait déjà évoqué effectivement sur le fait que le prix des jeux est ça coûtait plus cher d'acheter des jeux dans les années 80-90.
Oui.
Sauf qu'aujourd'hui l'arbitrage il est pas fait avec les mêmes en fonction des mêmes
bien sûr.
Ça prend un pourcentage différent d'un SMIC par exemple d'acheter un jeu à 80 balles.
Oui.
Mais t'as des priorités qui sont organisées différemment en fait, tout simplement.
Oui. Et puis bon, l'offre est un peu différente, t'as pas des trucs type Neo Geo avec des trucs
Non, mais un jeu, moi j'avais la Master System dans les années 90, c'était 350-400 francs.
J'allais dire 400 balles pour
400 francs, c'est, si tu le ramènes à l'inflation, c'est moins qu'un jeu à 80, c'est plus qu'un jeu à 80 balles aujourd'hui.
Oui.
Donc, par rapport à un pourcentage d'un SMIC, c'est moins élevé aujourd'hui. C'est juste que l'arbitrage, en fait, entre le choix d'un truc loisir, d'un jeu, les autres, le reste, en fait, a augmenté aussi. Donc, voilà. C'est plus à ce niveau-là que la différence se fait, mais 400 francs à l'époque par rapport, oui, par rapport à ce que tu gagnais, c'était beaucoup plus important.
Et puis la,
part. C'est une dépense plus importante.
Oui, et puis la part de loisir du foyer, pas uniquement pour le jeu, mais pour plein d'autres choses, est aussi plus importante parce que les gens, ils consacrent plus d'argent, tout simplement.
Ah non, c'est pour ça, la situation est différente, mais fatalement, le prix d'un jeu est une vraie question. Et c'est aussi pour ça, on l'avait beaucoup évoqué, les jeux gratuits à la Fortnite, ou ce genre de choses, qui tournent sur un grippin, donc t'as pas besoin d'acheter un PC pour aller avec.
Truc, c'est que voilà, t'as acheté la Switch, par exemple, et puis il y a un jeu dessus, puis bon, ben vas-y, il joue à Fortnite, il va y jouer 10 000 heures dessus, et ça coûte rien. Donc, forcément, le succès est là.
Et il y a deux aspects très intéressants qui sont abordés dans le rapport pour le CNC, ultra rapide parce que ça commence à toquer à la porte du studio.
Ça va couper.
Mais le CNC aborde le modèle freemium, justement un modèle qui est devenu dominant dans l'industrie, et donc l'étude montre qu'il est majoritairement accepté à condition d'être équilibré et transparent. C'est-à-dire que les joueurs et joueuses déclarent tolérer les microtransactions tant qu'elles n'entravent pas la progression et qu'elles donnent pas des avantages injustes à celles et ceux qui dépensent. Par contre, les pratiques jugées comme abusives, comme les loot box aléatoires et les systèmes pay to win, ça continue de susciter la méfiance. Donc, en gros, le public accepte le principe d'un jeu service, mais attend en retour une sorte de relation de confiance. Donc, ça met en avant que on a une perception ambivalente de ce modèle économique qui va devoir s'ajuster aux attentes des joueurs et joueuses pour conserver leur fidélité. Un sujet qui n'est pas du tout abordé dans le rapport du CEL.
Il y a très peu finalement de rapport à la consommation en fait.
Ouais,
aux achats, ouais. Ce genre de choses, c'est moins évoqué.
Mais peut-être parce qu'ils n'avaient pas du tout envie d'aborder ça.
Les questions en fait n'allaient pas dans ce sens-là. Ouais. Comme on disait, ils parlaient beaucoup plus de la population, type des personnes qui jouent plus que de leur consommation.
Et il y a aussi un passage sur l'IA, donc toujours dans le rapport du CNC, où les joueurs et joueuses disent espérer que l'IA soit un outil d'amélioration qui permette d'enrichir le jeu, l'expérience et l'immersion. Ils aimeraient que l'innovation technologique soit au service de l'expérience et de l'éthique. Là encore, il y a un enjeu de confiance en fait pour les joueurs et joueuses. Donc c'est intéressant que le CNC ait envie d'aborder ces aspects-là, quoi. Le CEL a peut-être pas envie de se mouiller sur ces trucs.
Le CNC, il s'est déjà un peu mouillé en finançant tout simplement de la création par IA. Ils ont monté un truc pour l'année prochaine. Là, tu peux faire ta candidature pour ton projet de création de contenu audiovisuel par IA,
oui.
Et avec de l'argent qui va être CNC, donc Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, ça ferait CNC IA. Moi je dis que c'est pas par hasard.
Non mais c'est pas étonnant. Alors évidemment on n'a absolument pas le temps, mais il y en a absolument pas le temps, mais je pense qu'il y a toute une réflexion à avoir assez intéressante sur l'acceptation de l'IA et comment l'IA sera acceptée dans les jeux. Parce que
sous quelle forme, dans quelle mesure, etc.
Parce que clairement, ce sera accepté. On ne sait pas quand, comment, quoi.
De toute façon,
mais ce sera accepté.
Techniquement, l'IA dans les jeux vidéo,
elle
a toujours été là.
Oui,
les PNJ,
ça dépend ce que tu appelles IA.
L'IA générative.
Voilà.
L'IA générative, c'est un petit peu différent.
C'est ça. Du coup, il y a forcément une partie des joueurs et joueuses qui est favorable à l'IA, mais ça dépend de quoi on parle et ça dépend de comment c'est employé.
Et comment on leur a parlé.
Comment c'est intégré. Mais c'est pour ça, je pense que c'est une discussion qui est intéressante parce que d'un côté tu peux avoir un côté très rédhibitoire sur les réactions de certains de la communauté de joueurs, notamment les hardcore gamers, et de l'autre tu as des succès des derniers temps qui montrent que en fait c'est pas si rédhibitoire que ça. Donc mais bon, ça sera une question pour une autre émission.
Et ben merci.
Merci à vous deux.
Merci à toi Romain, merci à toi Bettina.
Et puis, du coup, semaine prochaine.
On se retrouve le 27. On parlera, je l'annonce, de jeux vidéo indépendants.
Oui.
Avec des récompenses.
Avec des récompenses et un invité.
Oui, aussi.
Voilà.
C'est pas l'invité, la récompense.
C'est un copain, vous le connaissez. Merci à tous. On se retrouve donc jeudi prochain à 21h. D'ici là, jouez bien. Ciao.
Salut.
Salut.